France Culture.
Et les midis continuent leur chemin. Tout à l'heure à 13h, Romane Bourringer sera mon invitée. Mais tout de suite, place au point culture de Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. À Amiens, un centre de formation à la lutte contre l'immigration irrégulière et clandestine commande, comme lui permet la loi du 1% artistique, une œuvre d'art. Alors cette demande a suscité l'émoi d'une partie de la population et des politiques. Est-ce que l'œuvre d'un artiste financé par l'argent public peut se mettre au service de toutes les causes? Le point culture du jour revient sur les raisons d'être du 1% artistique et sur ce cas en particulier. Noé Wagener, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de droit public à l'université Paris-Est Créteil et vous travaillez notamment sur le 1% artistique. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous redire d'où vient cette mesure et en quoi elle consiste ?
Alors le 1% artistique, c'est une institution juridique à la base qui s'appelle l'obligation de décoration des constructions publiques et qui consiste en une obligation pour l'État et puis aussi, sous certaines conditions, pour les collectivités territoriales de consacrer 1% du coût d'un projet immobilier à la réalisation d'une commande ou à l'acquisition d'une œuvre existante, d'une part qui doit être faite par un artiste vivant et qui doit être installée dans l'établissement qu'on est en train de construire. Donc ça, c'est l'idée générale du 1% artistique.
Ça date de quand à peu près ?
Alors c'est en genèse, disons, durant le Front populaire. On a des projets de Mario Roustan, de Jean Zay. Et ensuite, c'est construit en deux étapes, en 1949-1951. Mais lorsqu'on crée ça par un arrêté ministériel de Pierre-Olivier Lapie, un arrêté du 18 mai 51, c'est vraiment circonscrit aux constructions de l'éducation nationale. Et donc, comprenant à l'époque aussi l'enseignement supérieur. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est vraiment de, par ces commandes à l'occasion de construction d'immeubles, de démocratiser l'art en le sortant des musées, en le sortant des institutions spécialisées. Et donc, on vise en tout premier lieu, disons, la mise en contact de l'art des élèves et des étudiantes et des étudiants. Et puis, il y a aussi toute cette idée d'enrichissement du patrimoine artistique national. Alors d'abord que de l'État, et puis on l'a ensuite élargi aux collectivités territoriales, puisqu'on va constituer une collection absolument considérable d'œuvres d'art contemporain, puisque aujourd'hui on estime, et d'ailleurs c'est amusant que je dise on estime, puisqu'on on a du mal à en faire le décompte exact, qu'il y a eu autour de 13 000 œuvres commandées par le biais du dispositif du 1% artistique.
Et qui choisit les artistes qui vont être missionnés pour créer une œuvre, justement ?
Alors ça a beaucoup varié dans les procédures au fur et à mesure du temps. Dans tous les cas, celui qui choisit en dernière instance, c'est le maître d'ouvrage, c'est-à-dire celui pour qui la construction est faite.
Parce que l'œuvre, en fait, elle doit s'intégrer dans une construction.
Voilà, c'est ça. Le 1% artistique, c'est pas simplement qu'on prend de l'argent d'un projet de construction en disant on consacre 1% du budget de cette construction à une œuvre d'art, mais c'est en outre que cette œuvre, elle est destinée à être placée dans la construction en question. Sachant que dans le terme placée dans la construction, vous avez une infinité de scénarios possibles, puisque ça peut être aussi bien des choses très classiques comme une peinture, une sculpture, mais ça peut être aussi des formes artistiques de signalétique, voire des arts appliqués, du mobilier créé pour le bâtiment en question. Tout ça est susceptible d'entrer dans le champ de ce 1%-là.
Et est-ce que ces œuvres d'art ont un statut particulier ? Je veux dire, par exemple, est-ce que la collectivité territoriale, la collectivité publique, doit en prendre soin comme d'une œuvre dans un musée ?
Alors, ça, c'est une question qui est justement un des énormes problèmes. C'est que on n'a pas d'obligation formelle d'entretien et donc de conservation sur le moyen et le long terme des œuvres issues du processus de 1% artistique. Face à cette problématique-là, le ministère de la Culture en particulier a essayé d'argumenter autour d'obligations qui existent néanmoins. Parce que ces œuvres, lorsqu'elles sont commandées, elles intègrent, en tout cas c'est le discours qui est produit par le ministère de la Culture, elles intègrent ce qu'on appelle le domaine public. Le domaine public au sens, non pas le domaine public qu'on a du côté du droit d'auteur, vous savez, les œuvres qui tombent dans le domaine public, mais vraiment le domaine public comme la Joconde est dans le domaine public, c'est-à-dire le domaine public qui assure une protection particulière de ces œuvres qui deviennent inaliénables et imprescriptibles. Donc ça, c'est une première protection. La deuxième protection qu'on a, et en fait c'est celle-là qui est le plus mobilisée en pratique, c'est celle qui vient des droits d'auteur des artistes qui défendent, ou dont les ayants droit défendent les œuvres fleuves lorsqu'elles sont mises en cause parce qu'elles ne sont pas entretenues. Et en fait, c'est surtout sur ces affaires de droit au respect de l'intégrité de l'œuvre des artistes que les quelques contentieux, parce qu'il n'y a pas beaucoup de contentieux en réalité autour du pourcentage artistique, se sont formés. C'est-à-dire d'artistes qui ont protesté, y compris en allant jusqu'en justice, parce que leur œuvre d'art était déplacée ou parce qu'elle était repeinte de manière brutale sans qu'ils soient consultés, etc., etc.
Un cas pratique peut-être pour finir cet entretien. Début novembre, la députée Madame Zaya Hamdam a alerté sur le caractère xénophobe d'une commande d'œuvres d'art devant un centre anti-immigration. Que dit la loi dans ce cas-là? Est-ce que les œuvres commandées dans le cadre du 1% artistique doivent répondre à des critères républicains?
Alors, la loi, elle ne dit rien. Heureusement, la loi, elle dit... simplement, et c'est pas la loi sur le 1% artistique, c'est une loi de 2016 sur la création artistique. Elle dit que la création artistique est libre en général. Alors, est-ce que une commande, donc si on prend le problème de l'autre côté, non pas ce que fait l'artiste, mais ce que commande une institution publique, en premier lieu l'État, est-ce que ça doit respecter les valeurs républicaines? Oui, évidemment, mais il n'y a pas d'obligation de contenu. Ce qui est en fait un peu perturbant dans cette affaire que vous citez, donc de la caserne Garin à Amiens, c'est donc ce centre de formation pour la lutte contre l'immigration clandestine et irrégulière qui est en construction et pour lequel il y a un appel à 1% artistique qui a été lancé et qui prévoit en réalité un programme dont les termes ne sont pas courants dans le monde des 1%, puisque il est expliqué que l'œuvre qui sera réalisée doit mettre en avant la rigueur des personnels qui luttent contre l'immigration irrégulière et illégale. Et évidemment, surtout dans un contexte général donc de forte critique de la politique du ministère de l'Intérieur en matière d'immigration, évidemment, ça a créé une... ça a été une sorte d'explosion des critiques, puisque le ministère de l'Intérieur semble vouloir ici un art aux ordres, même si, évidemment, il se défend de cet objectif-là. Donc, c'est pas comme ça, d'habitude, on va dire, que les commandes de 1% artistique sont formulées dans le programme. On se garde bien de flécher comme ça, surtout avec une dimension presque axiologique. On met en avant ici une valeur, la valeur de rigueur des agents qui luttent contre l'immigration. Donc, c'est assez peu surprenant parce que qu'il y a eu critique, parce que c'est assez maladroit de formuler un projet de 1% artistique de cette manière-là.
Bien, merci beaucoup pour toutes ces explications, Noé Wagner.
Je vous en prie.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, deux comédiens du Théâtre du Soleil accusés de violences sexuelles.
Dans une longue enquête parue ce dimanche, Mediapart a recueilli les témoignages de 8 ex-salariés ou bénévoles à l'encontre de Sébastien Brothé-Michel et Farid Ghoul Ahmad. Ces femmes, dont certaines étaient mineures au moment des faits, accusent les deux comédiens d'actes allant du harcèlement sexuel au viol pour 3 d'entre elles. Les faits se seraient déroulés entre 2010 et 2025 et une grande partie d'entre eux aurait eu lieu à la cartoucherie de Vincennes au sein même du Théâtre du Soleil. L'enquête révèle par ailleurs qu'Ariane Mouchkine, la directrice de la troupe, avait été informée de certains de ces faits dès 2023, mais qu'elle aurait décidé de minimiser la gravité des accusations. La troupe est visée par une enquête de la Brigade de protection des mineurs de Paris.
Les salles de la Cinémathèque française fermées pour un mois à cause des punaises de lit.
Sale temps pour la Cinémathèque, hein.
Pardon.
C'est Roman Boranger qui est là, qui nous raconte son lien avec la Cinémathèque. Bon, alors après la polémique suscitée par les propos de son directeur Frédéric Bonneau à l'encontre de l'actrice Maria Schneider, voilà que l'institution parisienne se retrouve bloquée par des punaises de lit. Suite à de nombreux signalements, la Cinémathèque annonce qu'elle va fermer pour un mois ses 4 salles de cinéma pour traiter complètement l'ensemble des fauteuils ainsi que les moquettes. Les autres espaces dédiés aux expositions ou à la bibliothèque restent accessibles. La réouverture des salles de projection est prévue le 2 janvier prochain, à l'occasion de la rétrospective consacrée au film noir scandinave.
Et pour finir, Marie, débute aujourd'hui le festival Beau Geste au 104 à Paris.
Pluridisciplinaire, cet événement qui se déroule jusqu'au 14 décembre prochain propose à la fois de la danse, du cirque, de la littérature ou encore des arts visuels. Son ambition est d'interroger le corps comme espace du langage, de la sensibilité et de la liberté. Alors au programme notamment Onda Romance, le dernier spectacle de la circassienne Vima Lapons que vous aviez reçu, Marie, ici, ou encore Rite, spectacle de danse jubilatoire avec Marlène Montero-Frétard et Israël Galvan. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur la page du Point Culture.
Merci Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles.
À demain.
À demain, en attendant, il est 13h et vous êtes sur France Culture.